Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans la présence du Seigneur. Nous sommes heureux à l'écoute de ces chants, quand on chante ces chants surtout, mais aussi d'écouter ces témoignages qui nous encouragent vraiment à mettre notre confiance en Dieu. Je voudrais faire cette première lecture dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Je pense que c'est un verset que vous connaissez déjà. Mais voilà ce qu'il y avait sur mon cœur cet après-midi. Matthieu chapitre 7, verset 13. Connaissez le serment sur la montagne et tous ces enseignements merveilleux que le Seigneur donne. Et au milieu de tous ces enseignements, il y a ce verset qui est donné par le Seigneur Jésus. Matthieu 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. » Vous savez combien une porte, peu importe l'épaisseur, mais le fait d'être d'un côté ou de l'autre d'une porte, peut être quelque chose qui change totalement, qui fait totalement la différence. Je pense à l'exemple de Noé, qui était dans l'arche. Noé qui était dans l'arche, il était derrière la porte, mais il était dans le bateau. Et les autres hommes qui, à un moment donné, se sont rendus compte qu'il commençait à pleuvoir plus que de raison, qui ont commencé à voir le niveau de la mer monter, etc., qui ont commencé à sentir qu'ils étaient vraiment en danger seulement à ce moment-là, alors que ça faisait des siècles, pas des siècles, mais un siècle au moins, que Noé leur disait que ça allait se passer, ces hommes se sont retrouvés face à la porte fermée, du mauvais côté. Et vous pensez aussi peut-être à cet exemple de Lot. Vous savez, quand les anges sont venus chercher Lot qui était dans cette ville de Sodome, vous vous souvenez de cette histoire?
Oui.
Quand Lot était là, à un moment donné, il sort de sa maison, il essaie d'expliquer à ces personnes qui ont vu les anges rentrer et savoir pourquoi ils sont là, etc. Il voulait leur faire du mal. Lot essaie de calmer la situation et ça ne fait qu'empirer. Et ce qui se passe, c'est que les anges le prennent, le ramènent à l'intérieur, derrière la maison. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui étaient dehors de cette porte ont été frappés d'aveuglement, de telle sorte qu'ils n'arrivaient même pas à retrouver le chemin. Et par contre, Noé était gardé dans sa maison, avec la protection de ses anges. Une simple porte fait toute la différence. Des fois, il n'y a pas de porte. Dans certaines histoires de la Bible, on voit ce jeune homme Eutychus qui était sur le bord de la fenêtre. Des fois, on entend des gens qui veulent aller à l'église, mais prendre seulement ce qui les intéresse, et qui veulent, par contre, garder ce qui les intéresse chez eux, dans leur cœur. Et du coup, c'est un peu comme cette image de cet homme qui était là, entre les deux, qui regardait ce qui se passait dans la rue, et qui écoutait à moitié ce que disait l'apôtre Paul. Et vous savez ce qui s'est passé? Cet homme est tombé du mauvais côté. Parce que c'est pas une bonne idée de rester sur le seuil. C'est pas une bonne idée de rester sur le seuil du royaume de Dieu. Le Seigneur nous appelle à entrer et à entrer par la porte étroite. Est-ce que c'est gênant que la porte soit étroite? Est-ce que c'est dérangeant? Peut-être un petit peu. Vous avez déjà essayé de passer par une porte étroite? Un endroit où c'est mansardé et vous risquez de vous cogner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un petit effort de se baisser au moins, un minimum. Mais est-ce que c'est vraiment dérangeant? En fait, ça dépend surtout où c'est qu'on va. Parce que, imaginez un instant que vous êtes dans une maison en feu. Une maison en feu. Malheureusement, la porte d'entrée est bloquée. Et par contre, vous avez un gentil pompier qui est en face de la porte et qui commence à faire une petite ouverture au niveau du bas de la porte. Et qu'est-ce que vous allez faire? Une petite ouverture, une porte étroite qui est là. Est-ce que ça va être gênant? À côté d'un feu qui est là et qui est en train de commencer à vous brûler. Est-ce que ça vous dérange? Non, parce que ça vous sauve la vie. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est exactement le message que Jésus est en train de donner. Entrez par la porte, même si elle est étroite, ça vaut la peine de rentrer parce que c'est la promesse du Seigneur que de prendre soin de tous ceux qui vont rentrer dans son royaume. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le royaume de Dieu, parce que c'est là où Dieu règne, là où la volonté de Dieu s'accomplit, là où le Seigneur peut manifester sa puissante main. Quand quelqu'un accepte d'entrer par la porte étroite, alors il y a tout ça qui se passe. Mais le problème, si la porte est étroite, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'obstacles. À plusieurs reprises, on voit dans la parole de Dieu que Jésus nous met en garde sur certaines attitudes qui font que on ne peut pas entrer dans le royaume. Vous avez remarqué ça dans la parole. Dans ce chapitre, par exemple, juste après, il est question de certaines personnes qui ont de belles paroles. Au verset 21 du chapitre 7, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Est-ce que c'est mal que de dire « Seigneur, Seigneur » quand on entend des gens parler, on était, je ne sais plus où, avec mon épouse, on entendait seulement des enfants. On était au McDo, voilà, pour ne pas le citer. Et on entendait des enfants qui parlaient et ils ne faisaient que dire des grossièretés, quelque chose d'incroyable. Et la maman, eh ben, c'était pire que les autres. Et on était là, on était choqués d'entendre des enfants de 10 ans peut-être qui ne savaient pas parler sans dire un gros mot. Est-ce que ce n'est pas merveilleux quand un enfant est capable de dire « Seigneur, Seigneur » C'est quand même intéressant. Mais le Seigneur nous dit que ça ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Ce qui est important, c'est de faire sa volonté, c'est de lui obéir. Dans Matthieu chapitre 5, verset 20, on voit qu'il y a un autre problème. Il y a des personnes qui sont là. Jésus parle en particulier, il prend l'exemple des pharisiens, des personnes qui tergiversent un peu avec la parole. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils ont aussi mis leur interprétation au milieu. Et c'est pour cela que Jésus dit cette parole. « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » Quelle était cette justice incroyable de ces pharisiens? C'était leur propre justice, tout simplement. Ce qu'ils faisaient, ce qui était apparent, dans le chapitre 6, verset 1er, Jésus dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. » C'était ça qu'ils faisaient, justement. Ils pratiquaient la justice seulement quand les gens les voyaient. Par exemple, ils donnaient à l'offrande quand tout le monde avait les yeux fixés sur eux. Et ils montraient bien, bien haut à tout le monde ce qu'ils donnaient. Par exemple, il y a toutes sortes d'images qui sont là, mais quand on fait les choses en apparence, quand on fait les choses que quand la gloire nous revient à nous, mais ça c'est pratiquer la justice qui ne plaît pas au Seigneur. Et ça c'est un obstacle qui ne nous permet pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 19, verset 23, on fait quelques petites lectures, hein. Mais qui nous enseigne ce qu'a dit Jésus par rapport à cette entrée dans le royaume et ses obstacles. Matthieu 19, 23, vous savez, c'est quand le jeune homme riche vient voir Jésus et Jésus apporte l'enseignement parce que cet homme qui est là devant la solution, Jésus qui est là en personne en train de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse pour avoir la vie éternelle, cet homme repart tout triste parce qu'il refuse d'abandonner ses richesses et il dit ça à ses disciples, « Je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ça ne veut pas dire que c'est impossible, puisque Jésus dit il entrera, un riche c'est difficile, il entrera difficilement. Mais c'est un obstacle que la richesse quand elle prend la première place dans notre vie. C'est quelque chose, et la richesse, on pourrait prendre autre chose. Hein. On pourrait prendre cette activité que nous faisons, qui est en premier dans notre vie, qui nous prend tout notre temps. Dès l'instant où elle est en premier, c'est quelque chose qui devient un obstacle et qui ne nous permet pas de rentrer dans le royaume de Dieu. La solution pour ce jeune homme, c'était simplement de dire « Seigneur, oui, j'accepte que c'est toi qui conduises ma vie, que ce ne soit pas moi l'amour de l'argent qui conduisent ma vie, ou ça ne soit pas l'amour de quelqu'un peut-être. » Parce que des fois, vous savez, des personnes se laissent arrêter parce que des personnes qu'ils aiment refusent la foi. On a déjà vu des gens qui avaient compris l'évangile, qui avaient compris la croix, qui avaient tout compris, mais disaient « Moi, je refuse que dans le ciel, je sois séparé de mon mari. » Et la dame, elle a refusé de croire. Enfin, elle savait que c'était vrai, mais elle a refusé. Combien c'est dommage. Parce qu'elle n'a pas laissé à Dieu la première place dans sa vie. Ça, c'est des obstacles. Matthieu, chapitre 23, verset 13. Encore une fois, le Seigneur parle aux scribes et aux pharisiens. Et il leur dit quelque chose de terrible. C'était des pasteurs, ces hommes-là. Ils étaient chargés d'enseigner les autres. Et voilà ce qu'ils enseignaient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y rentrer. Combien c'est terrible. Des fois, on voit des personnes qui ont soif de Dieu, qui ont soif de la Bible, qui ont soif d'aller plus loin, etc. Et ils se retrouvent confrontés à d'autres personnes qui connaissent un petit peu toutes ces choses, mais qui sont tellement dans la religiosité, qui sont tellement dans une vie plate avec le Seigneur, une vie totalement dénuée de ferveur, qui donnent ce mauvais exemple à ces personnes. Et ça, il y a des fois, ces personnes ont été en scandale, ont amené des gens à se détourner de Jésus. Combien c'est dommage. Mais cet après-midi, nous ne voulons au contraire être de ceux, à l'exemple de Luzette qui nous a encouragés à mettre notre foi en Jésus, nous voulons être de ceux qui encouragent chacun, tous ceux qui le désirent, entrer dans le royaume de Dieu. Je finis avec ce dernier verset pour ces obstacles. Dans Marc chapitre 9, verset 47, on aurait pu le lire ailleurs, Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Marc 9, verset 47, il dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Et quand on entend cette description, on se rend compte que Jésus est le premier à nous dire que l'enfer existe. Je veux dire, ce verset-là est en train de nous confirmer. Quand on voit la description qu'il en fait, ce n'est pas quelque chose qui nous donne envie, bien au contraire, mais il nous dit qu'il y a quelque chose à faire de notre part. Si notre œil est pour nous une occasion de chute, ça ne veut pas dire qu'il faut arracher notre œil, vous avez bien compris, mais si au travers de notre regard il y a une tentation qui se crée, alors nous devons tout faire pour que ça soit quelque chose qui soit éliminé de notre vie. Et bien sûr, on va vite se rendre compte que par nous-mêmes on n'a pas la force, et que la seule personne qui peut nous communiquer cette force, la seule façon d'être délivré, c'est de courir dans la présence de Dieu et de prier de tout notre cœur. Seigneur, toi seul es capable de m'aider. Et si par contre je refuse de régler, parce que le Seigneur il est précis quand il nous dit si ton œil et pour toi une occasion de chute, il n'est pas question d'aller chercher un autre terrain à régler. Souvent les gens, on leur dit, voilà, c'est ça qu'il faut régler dans votre vie, et ils cherchent toutes sortes d'autres excuses pour essayer de ne pas faire cette chose-là à laquelle ils tiennent. Mais le Seigneur, il est précis dans ce qu'il nous demande. Et s'il nous le demande, c'est pour une bonne raison, c'est pour nous amener la bénédiction dans notre vie. Il y a des obstacles, mais il y a aussi, heureusement, des choses à faire de notre part qui nous permettent d'être dans les bonnes conditions. C'est un peu à cette image qui est donnée quand on veut aller à un spectacle, il y a un ticket d'entrée. Sauf que quelque chose de particulier, c'est que c'est gratuit. C'est merveilleux ça. Vous avez déjà été invité à un spectacle quelconque, mais quand quelqu'un vous a payé carrément l'entrée, c'est merveilleux. Il faut par contre que si vous vous présentez sans le ticket, que vous dites non, c'est bon, quelqu'un me l'a offert, qu'est-ce qui va se passer? Vous restez dehors. Par contre, si vous arrivez avec le ticket que vous n'avez pas payé, ben vous pouvez rentrer et profiter du spectacle. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais celui qui a payé, vous le connaissez, c'est le Seigneur Jésus. Mais il nous enseigne aussi, par exemple, dans Luc au chapitre 13, Jésus va un petit peu plus loin par rapport à cette parole qui nous était donnée. Entrez par la porte étroite. Là, il nous dit de quelle manière il faut que nous entrions. Luc chapitre 13. Verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Non, tous vont être sauvés. » C'est pas ça, hein ? Vous avez vu ce qu'il dit, Seigneur ? « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » il répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Il faut entrer par la porte étroite, mais il faut surtout s'efforcer d'entrer. Ça demande un effort de notre part, même si c'est gratuit, même si Jésus a payé le prix, même si le sacrifice qui a été fait à la croix est amplement suffisant, il y a un effort qui est fait de notre part. Et c'est, dans ce passage, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est de savoir que beaucoup vont chercher à entrer. C'est quelque chose d'incroyable que de savoir que beaucoup cherchent à entrer dans la porte, par cette porte, mais qu'ils ne vont pas y arriver. Ils ne le pourront pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne le pourront pas? Parce que justement, il y a des conditions. Il y a cet effort à faire. Et la première de ces conditions, On la trouve dans Luc 16:16, ce verset qu'on connaît bien. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on tape quelqu'un pour entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on brûle une voiture dans la rue, manifester la violence? C'est comme ça que ça marche? Pas du tout. C'est cette violence qui touche à notre ego, qui touche à notre cœur égoïste, à notre cœur rebelle. C'est cet effort que nous faisons envers nous-mêmes pour choisir de reconnaître déjà que nous ne sommes pas parfaits, de reconnaître qu'il faut qu'on descende de notre piédestal sur lequel on s'est placé petit à petit à cause des choix que l'on a faits. À un moment donné, il faut accepter de dire c'est vrai que j'ai besoin de Dieu. C'est vrai que j'ai besoin que Dieu fasse son œuvre en moi. Et à un moment donné, il faut accepter, et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de force de caractère que de dire « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. » C'est une toute petite phrase, mais quand on la prononce avec sincérité, ça demande un travail sur nous-mêmes. Quand le fils prodigue s'est retrouvé face au couchant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en lui-même, et c'est à ce moment-là seulement qu'il a reconnu qu'il était un pécheur, qu'il a reconnu tout ce qu'il avait gaspillé, qu'il a reconnu qu'auprès du Père, c'était là qu'était sa place. Combien nous avons besoin de reconnaître notre péché et d'accepter, certaines fois, de regarder en nous-mêmes. Combien nous avons besoin, certaines fois, de cette violence envers nous-mêmes pour accepter seulement le pardon de Dieu. Vous savez, des fois, c'est dur d'accepter qu'on n'a besoin de rien faire pour être pardonné, si ce n'est de se repentir. On voudrait, nous, aller faire des pèlerinages à certains endroits pour peut-être essayer de gagner quoi que ce soit, mais ça ne marche pas comme ça. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Le seul moyen d'être pardonné, c'est simplement de reconnaître son péché, de s'en repentir, de s'en détourner, de dire « Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. » Et qu'est-ce qui se passe? Quand on le fait de tout notre cœur, le Seigneur nous pardonne. Luc chapitre 18, juste après, regardez ce qu'il est dit. Luc chapitre 18, verset 15, « On amène des petits enfants au Seigneur afin qu'il les touchât, mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Amen. » Recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Accepter que Jésus puisse nous diriger à 100%. Quand on part en vacances avec les enfants, qu'est-ce qui se passe? C'est pas eux qui décident où c'est qu'on va, c'est pas eux qui choisissent les points où c'est qu'on va s'arrêter, mais comme on est les parents, ils suivent. Ils savent qu'on va tous, on va s'occuper d'eux. Ils ne réfléchissent pas à la logistique, ils ne réfléchissent pas à ce qu'on doit mener, mais ils ont confiance. Et un petit enfant, c'est ça, quelqu'un qui a confiance. Alors je vois ma femme qui me dit « Oui, c'est surtout moi qui m'occupe de la logistique. » D'accord. Et moi, je range dans la voiture toute la logistique. Ok. Mais, en tout cas, les petits-enfants, ils s'occupent de rien. Ça, c'est sûr. Et ce qui est important, c'est que nous puissions avoir cette même attitude. Dépendre de notre Père et comprendre que pour que notre vie soit bien dirigée, que notre vie puisse être menée au bon endroit, à la vie éternelle, il faut que ça soit Dieu qui nous conduise, il faut que ça soit Dieu qui dirige notre vie, il faut que ça soit sa volonté que nous fassions. Oui, on a parlé de la porte étroite, mais il y a aussi le chemin qui est resserré. Nous avons besoin de marcher tous les jours sur ce chemin resserré. Ça nous parle pas seulement de la conversion, mais ça nous parle tous les jours de marcher dans cette vie de sainteté et d'obéissance qui va permettre au Seigneur d'amener sa faveur sur notre vie. Est-ce que vous voulez la faveur de Monsieur Hollande? Bon, peut-être ça vous intéresserait, je ne sais pas si vous voulez être pistonné, mais moi je préfère de beaucoup la faveur de Dieu dans ma vie. Parce que ça, il n'y a rien au monde qui pourra changer. Même si les élections prochaines, ça risque de changer ou pas, peu importe, la faveur de Dieu, ça ne changera jamais dès l'instant où je sais qu'il est de mon côté, dès l'instant où je sais que je suis entré dans son royaume, alors lui s'occupe de ma vie. Je voudrais lire encore ce verset dans Jean chapitre 3, verset 5. Vous savez ce qu'il a dit Jésus à cet homme? J'aime cette parole parce qu'à un moment donné, Jésus dit à Nicodème, « Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas. » Cet homme il était chargé d'enseigner les autres, de, sûrement de préparer des messages à la synagogue, etc., de faire toute une théologie sur la loi. Et alors que Jésus lui parle simplement de la nouvelle naissance, c'est ce qu'on enseigne aux instructions pour le baptême, c'est vraiment le sujet sur lequel on parle. Cet homme, il était carrément à côté de la plaque. Mais il a fait la bonne chose, il est venu voir le Seigneur Jésus. Même si c'était de nuit, ça c'est pas grave, peu importe. Il est venu voir Jésus, celui qui avait la réponse. Et Jésus lui dit, au Jean chapitre 3 verset 5, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on naisse, qu'on soit baptisé? Souvent les gens croient que naître d'eau, c'est être baptisé. C'est pas ça. Naître d'eau, c'est l'eau de la parole. Quand on accepte la parole par la foi, c'est cette œuvre. On accepte que Jésus est mort à la croix pour notre péché, on met notre foi dans cette parole, et alors on est lavé dans notre cœur. C'est ça, naître d'eau et d'esprit. L'Esprit de Dieu nous permet de devenir une nouvelle créature, une créature qui est transformée, alors que on avait peut-être la facilité à se mettre en colère, le Seigneur nous permet d'être renouvelé. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement délivré de la colère, il y a toujours notre effort à faire, mais le Seigneur nous donne la capacité maintenant de pouvoir dire non à la colère, pouvoir dire non au mensonge, de pouvoir dire non au péché. Et c'est seulement par sa grâce. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Combien nous avons besoin, cet après-midi, peut-être simplement de méditer cette parole. Seigneur, je veux naître d'eau et d'esprit, je veux entrer dans ton royaume. Peut-être que j'y suis déjà. Seigneur, alors je veux être renouvelé dans la parole, renouvelé dans le Saint-Esprit, afin que ma vie puisse amener la bénédiction autour de moi. On peut éviter tous les obstacles, s'efforcer d'avoir une bonne morale dans notre vie. On peut respecter toutes les conditions d'entrée de manière intellectuelle. Mais rien de tout ce que nous faisons ne permettra que la porte des cieux puisse s'ouvrir. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui pouvait ouvrir cette porte. Vous savez, quand Jean est amené dans cette vision, dans cette révélation de Jésus-Christ dans l'Apocalypse, au chapitre 4, au verset 1er, il dit « Après cela, je regardais, et qu'est-ce qu'il vit ? Voici, je vis une porte ouverte dans le ciel. » Une porte est ouverte dans le ciel, pourquoi ? Parce que Jésus a donné sa vie à la croix. C'est pas parce qu'on a fait nos efforts, c'est pas parce qu'on s'efforce même tous les jours d'obéir au Seigneur que la porte est ouverte dans le ciel. C'est seulement et seulement parce que Jésus est mort à la croix, Jésus a versé son sang. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est seulement à cause de ce sacrifice que la porte des cieux a pu s'ouvrir. Et c'est pour cela aussi que Jésus a pu dire quelque part, dans Jean chapitre 10, il a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Combien nous avons besoin de réfléchir. Et peut-être qu'on va profiter de ces quelques minutes que nous avons pour incliner nos fronts, fermer nos yeux et réfléchir justement à cette question. De quel côté de la porte est-ce que je me trouve? C'est une question à laquelle je dois répondre cet après-midi. C'est pas une question que je peux me permettre de repousser. C'est pas une question que je peux dire « je verrai ça plus tard ». Mais aujourd'hui, alors que la parole est annoncée, est-ce que je peux répondre à cette question avec certitude en disant que oui, je suis entré dans le royaume de Dieu? Est-ce que je peux dire oui, Seigneur, je t'ai demandé pardon? Oui, je me suis repenti. Oui, j'ai fait comme Luzette a pu le faire à un certain moment donné de sa vie et comme tant d'autres parmi nous l'ont déjà fait. Peut-être que je ne suis pas entré dans le royaume, se dira quelqu'un. C'est vrai qu'il y a des obstacles. C'est vrai qu'il y a des comportements qui nous ferment l'accès. C'est vrai qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. C'est vrai aussi qu'il y a des conditions. Le Seigneur nous invite cet après-midi à réfléchir. Oui, il faut s'efforcer d'entrer. Mais est-ce que notre vie n'est pas en jeu? Est-ce que la faveur de Dieu sur notre vie n'est pas en jeu?
et n'est pas assez importante pour qu'on prenne le temps cet après-midi de réfléchir à ces choses. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que 80 ans? Qu'est-ce que 100 ans même? Qu'est-ce que 120 ans face à l'éternité? Même si nous passons 120 ans dans un certain confort et que nous ne sommes jamais entrés dans le royaume de Dieu, combien la douleur sera terrible après la mort. Voilà pourquoi dans ces instants le Seigneur nous invite à réfléchir, oui, de quel côté de la porte sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans ce royaume merveilleux où le Seigneur manifeste sa faveur envers ses enfants? Et quand il va revenir, est-ce que vous ne croyez pas, frères et sœurs, que ça sera quelque chose d'encore plus beau? C'est sûr que ça sera quelque chose de merveilleux. Ou est-ce que nous sommes du mauvais côté? Et là, nous savons ce qui y attend. Le feu de la géhenne, cet enfer éternel. Alors dans ces instants, qui aura assez de courage? Qui va user de violence pour entrer dans le royaume de Dieu en disant « C'en est assez, je veux renoncer à mon péché, je veux demander pardon à Dieu, j'en ai assez de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas devant les autres, je veux être au clair devant Dieu. » Alors laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur dans ces instants. Est-ce que vous êtes entré par la porte étroite? Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur? Sinon, c'est l'occasion pour vous de le faire. Merci Éternel. Merci pour ta parole. Ta parole qui est, Seigneur, tellement simple. Ta parole qui est tellement vraie. Ta parole qui est capable, encore cet après-midi, de faire du bien, de communiquer la vie à quelqu'un qui va accepter, de la recevoir dans son cœur, Seigneur. Merci, oui, de bénir ces instants. Tu sais, Seigneur, les paroles qui avaient besoin d'être entendues. Éternel, nous te prions que, par le Saint-Esprit, il y ait l'action qui se fasse dans les cœurs. Merci, Éternel, oui, de montrer à quelqu'un, peut-être, qu'il se trouve encore du mauvais côté. Merci, parce que tu nous as donné à nous cet accès à ta présence. Nous sommes rentrés dans l'arche de ta présence, Seigneur. Et maintenant, nous savons que peu importe ce qui peut arriver dans ce monde, peu importe la colère qui va se déchaîner, le déluge de colère qui va venir, nous croyons que nous sommes en sécurité. Mais nous croyons que encore aujourd'hui, la porte est ouverte. Et Seigneur, nous te demandons, oui, de permettre que, encore cet après-midi, des hommes et des femmes puissent décider à rentrer dans ton royaume pour la gloire de ton nom. Amen.